Nous retrouvons notre invité François Ruffin, député de la France Insoumise, pour dialoguer avec lui. Nous sommes en compagnie de Sophie Delpont de la rédaction de France Culture. Une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs, François Ruffin, maintenant que vous êtes en politique, vous êtes député. Oui. La question du harcèlement dans le milieu politique, à gauche, à droite.
Je pense que, enfin, la première chose, moi, c'est, je parlais tout à l'heure de paroles libérées. Je vais voir de temps en temps moi ce qui se passe sur Balance ton port, le site internet. Après, c'est pas fait de la manière la plus élégante en général, mais on sent que de toute façon ça traverse tous les milieux de la société et ça raconte énormément de choses. Et c'est, donc là on est sur un cas sur le mouvement des jeunesses socialistes. Bon, bah c'est une chose, mais ça prend tout. On voit bien que c'est un grouillement. Moi, je souhaite qu'il y ait
ça prend tout. Ça prend, comme le disait Frédéric, un peu plus à gauche qu'à droite. On a l'impression, il y a eu l'affaire Beaupin. Il y a eu donc ensuite le président des jeunes socialistes, maintenant l'UNEF. Il ne s'agit pas de dire que le harcèlement, c'est de gauche, mais vous ne trouvez pas ça étrange?
Moi, je vous dis, je pense que c'est... Vraiment, je pense... D'ailleurs, nous, on publie nous-mêmes un témoignage d'une ancienne journaliste de Fakir. Alors, ce n'est pas Fakir que ça s'est produit. Je tiens à le... Non, mais attends.
Fakir, c'est votre journal.
Ouais, c'est mon journal. Qui raconte qu'il y a des camarades de gauche et tout ça qui profitaient de... Bon, ça me rappelle une autre anecdote. Je m'excuse, c'est un peu décousu peut-être. Mais ça me rappelle un responsable socialiste qui faisait des tournées de débat. Dont on me racontait que quand il faisait un débat, il demandait à son assistant, bah tu m'amèneras celle-là, quoi. Donc c'était un espèce de marché. Je veux dire, c'est là on est aussi dans ce qu'est le pouvoir. Voilà, il y a des trucs. Je suis pas psychanalyste et tout ça, mais il y a des trucs qui sont vraiment pas sains à ce niveau-là. Je préfère que ce qui me paraît vachement positif dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui c'est mis sur la table. Voilà.
Mais est-ce que vous trouvez que la parole se libère à gauche parce que justement la gauche a peut-être plus d'aptitude à libérer cette parole, ou est-ce que ce sont des pratiques
Non, je ne pense pas que ce soit des pratiques spécifiques à la gauche. Moi, je pense que ça traverse tout le corps social et donc tout le champ politique. Peut-être qu'en effet, moi, je viens ici, je réfléchis avec vous. Hein. Moi, j'entends ce que vous me dites et je trouve intéressant la dialectique que vous posez. Je peux pas la mesurer aujourd'hui, mais je trouve intéressant le truc que vous proposez. En disant, bah voilà, d'un côté, ça existe sans doute partout, mais comme idéologiquement on est plus structuré sur ce terrain-là et qu'en effet il y a pas mal de militants et de militantes sur le terrain féministe, et bah, du coup ça réveille plus facilement la parole. Ça me paraît pertinent, quoi.
Continuons la réflexion commune, François Ruffin. Il y a eu un certain nombre de phrases sur la France insoumise, une phrase de Jean-Luc Mélenchon au sujet donc de la déprime que traverserait le mouvement, le point qu'aurait gagné Macron, vous qui dites et on n'est probablement pas prêt à prendre le pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où en est la France insoumise?
Ah ouais, je vais vous dire, si j'ai cette réflexion-là, et il y a des gens à la convention qui disent, mais tu nous plombes le moral, mais au contraire, c'est parce que j'ai le moral que je pose cette question aujourd'hui. Je veux dire que mon courant, qui est cette gauche critique, jamais dans ma vie, ça fait 18 ans que j'écris Fakir, jamais j'ai eu le sentiment qu'on pouvait accéder au pouvoir. Aujourd'hui, la possibilité qu'on puisse accéder au pouvoir, elle est en vue. Je dis pas que c'est facile, et moi je viens dire, attention, c'est pas facile, on a des défis devant nous, on a des obstacles, on doit les surmonter, on doit dépasser ça, mais aujourd'hui on a cette possibilité-là. Donc ce que je viens dire est un message fondamentalement positif sur le fond, c'est de dire, c'est possible, attention, peut-être qu'on n'est pas prêt aujourd'hui, mais on est peut-être prêt demain, on le sera davantage après-demain, et tous les jours on apprend, et tous les jours on se rapproche de la capacité de diriger ce pays. Et vraiment, ça a été retourné et peut-être c'est moi qui me suis mal exprimé, hein, pas, mais en disant, mais moi, si jamais je n'ai posé cette question-là jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que ça paraissait une perspective immensément éloignée. Et aujourd'hui, on a la possibilité que ça soit nous qui représentions la gauche de manière dominante, et ensuite que cette gauche puisse prendre le pouvoir. C'est plus une utopie, c'est plus une fiction. On peut y arriver. Mais maintenant, ça va pas se faire tout seul non plus. C'est pas comme si on était d'ores et déjà les meilleurs, les plus forts et qu'on savait tout faire, quoi.
Sophie Delpont.
Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
Vous dites c'est possible de prendre le pouvoir, on peut le faire aujourd'hui, ça passe aussi par des constructions politiques pour gagner des élections. D'ailleurs, vous en êtes une preuve. Vous avez réussi sur votre territoire, ce qui a été extrêmement rare avec la France Insoumise et les communistes, et au-delà, d'avoir une alliance pour porter votre candidature. Mmh. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui sur la construction de ce rassemblement à gauche indispensable dans la perspective de prendre le pouvoir?
Moi, je vais vous dire, Je sais pas si je, des fois je dois m'exprimer avec tant de clarté, mais je sais pas faire autrement. Je pense qu'on peut construire des alliances, mais il faut qu'on soit dominant et il faut que ça soit clair qu'on est dominant.
Hégémonique.
Hégémonique, ça veut dire que, par exemple, je reprends l'histoire du Front populaire, mais le Front populaire est ce qu'il est parce que au moment où il y a l'élection, c'est le Parti socialiste qui domine, que les communistes montent et que le Parti radical, il est plus le centre de la gauche à ce moment-là. L'équivalent du Parti radical aujourd'hui, c'est le Parti socialiste, à la fois sur le déclin et qui grosso modo incarne les mêmes valeurs sur le plan enfin économique. Voilà. Donc moi, je n'exclus pas. Je n'exclus pas une alliance à l'avenir avec le Parti socialiste, mais il faut d'abord qu'on se dise qui est-ce qui mène la barque, où est le centre de gravité de notre gauche. Et moi, je veux que le centre de gravité de notre gauche, il soit autour des valeurs du programme économique et social et écologique de la France insoumise.
Et les communistes, parce que Sophie Delpont parlait aussi des communistes.
Ben moi, de toute façon, je suis élu par, j'ai été élu et je suis en voilà. Donc moi, tout ce qui est possible de faire avec les communistes, je souhaite que ça soit fait. Et j'y travaille main dans la main. Ma proposition de loi sur la psychiatrie, elle est signée par André Chassaigne, Hubert Vulfranc. Bon, voilà. Donc, moi, tout ce que
ils
je peux faire...
Ils sont députés communistes à l'Assemblée nationale.
Oui, députés communistes à l'Assemblée nationale. Tout ce que je peux faire main dans la main avec tous les jours, on vote tout ensemble à l'Assemblée nationale. On est d'accord sur presque tout. Alors, on va trouver un moment, il y aura le nucléaire. Je veux dire, c'est pas un point qui doit contribuer à nous diviser. Après, il y a des enjeux aussi, alors je suis peut-être encore avec trop de clarté, mais il y a aussi des enjeux financiers dans comment on sauve un parti, quelle est la ligne.
Il n'y a pas aussi une différence fondamentale dans votre approche. Hein. Vous dites peut-être que j'en dis trop, peut-être que je suis trop claire. Quand Jean-Luc Mélenchon, depuis la tribune à la Convention de la France Insoumise samedi, répète « pas de tambouille électorale ». Est-ce que ça ne bloque pas de possibles dialogues avec les organisations politiques et les militants de ces organisations politiques dont beaucoup ont soutenu la campagne de Jean-Luc Mélenchon et peuvent se sentir... être un peu méprisé par ce genre de présupposés.
Je suis pas spécialiste de ça. Moi, je dirais aujourd'hui pas de tambouille électorale. Aujourd'hui, peut-être. C'est-à-dire que je pense que le pôle que représente le Parti communiste et la France insoumise doit être d'abord hégémonique et ensuite, je pense qu'on peut discuter, mais alors peut-être je dis trop avec trop de sincérité, mais en situation de force.
En termes idéologiques, on dit voilà, il y a beaucoup de proximité entre la France insoumise et les communistes sur le fond des valeurs, l'égalité, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une différence fondamentale qui fait qu'aussi idéologiquement, au-delà des personnes, ça peut poser problème dans l'idée que les communistes sont révolutionnaires, sont donc des personnes qui revendiquent le combat de la lutte des classes, alors que la France insoumise serait plutôt porteuse de social-démocratie, l'idée de changer par les urnes.
Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que le Parti communiste est plus révolutionnaire que la France insoumise ? De toute façon, s'il y a une situation révolutionnaire qui se produit, moi je dis on ne peut pas être révolutionnaire sans révolution. Tant qu'il n'y a pas de révolution, on est réformiste. Moi je suis réformiste, ça veut dire, mais pas contre-réformiste, parce que vous savez ce qu'on appelle aujourd'hui des réformes, c'est ce que la CGT et le Parti communiste appelaient des contre-réformes dans les années 70. Donc il ne faut pas qu'ils nous piquent ce mot-là. Oui, je suis, comme Jaurès se disait, réformiste révolutionnaire. Et ça me convient. Tous les jours, on essaye d'avancer, de progresser, d'élever notre niveau de confiance et de conscience. Et un jour, on aura peut-être suffisamment confiance et conscience dans notre force pour que se produise une situation révolutionnaire. Mais...
Et justement, par rapport à cela, François Ruffin, puisque nous avons évoqué, par exemple, les hôpitaux psychiatriques, pendant le journal de 8 heures, vous avez évoqué de faire le bilan des opérations extérieures de la France. Tout cela, ce sont des missions... ou des propositions qui sont internes au système. Est-ce que vous pensez que on peut faire progresser le système, ou est-ce que de toute façon, à terme, votre but est de considérer qu'il faut en changer?
Ça veut dire quoi, le système?
Par exemple le capitalisme.
En tout cas, moi je suis pour un encadrement plus fort, en tout cas une régulation. Mais vous savez, quand on regarde le programme, d'ailleurs ça m'arrange, je m'amuse parfois à l'Assemblée nationale à faire des parodies des discours de François Mitterrand, des années 70. Ça passe inaperçu, mais je reprends des tirades de
par exemple.
Les maîtres de l'argent, les maîtres des médias, les maîtres de l'industrie, les maîtres du sous-sol, les maîtres de l'armement, je me lance comme ça. En fait, c'est une parodie d'un discours de François Mitterrand à la porte de Versailles. Mais si on regarde le programme commun des années 70, il est sans doute plus à gauche que ne l'est le programme de l'avenir en commun de la France insoumise. Si on regarde, enfin, où la CFDT des années 70 était plus
agressive. Mais justement, parce que vous pourriez peut-être faire aussi une parodie du discours du Bourget, on a l'impression qu'à gauche, les discours sont très à gauche et que la pratique gouvernementale, elle est largement moins à gauche. Il n'y a pas quelque chose d'un peu, comment dirais-je, déconcertant pour vous là-dedans?
Ah bah si, mais moi c'est pour ça que j'ai toujours dit, par exemple dans le programme du Conseil national de la résistance, ce qui m'épate, c'est pas qu'on ait pondu un beau programme, c'est qu'il était partiellement mis en œuvre. Parce qu'à gauche, on est très fort pour faire des super programmes qui vont tout révolutionner. Enfin, ça, on en a un paquet. Mais par contre, derrière, il faut le mettre en œuvre. Et donc, c'est sûr que les conditions de la mise en œuvre, ça suppose un rapport de force. C'est pour ça que moi, je dis toujours les urnes et la rue. Ok, on gagne dans les urnes. Mais si jamais il n'y a pas une pression populaire, vous avez rien. 68, ça a été la rue sans les urnes. 81, ça a été les urnes sans la rue. Si vous avez l'un sans l'autre, si vous n'avez pas une pression populaire qui vient à la fois dire aux dirigeants, vous devez faire le taf pour lequel vous êtes là, et en même temps, donc, qui aide à construire un rapport de force avec la Commission européenne, avec le Conseil constitutionnel, avec éventuellement les médias, avec le MEDEF et tout ça, s'il n'y a pas cette pression qui vient d'en bas, je crains qu'on ait quelque chose. On fera des choses quand même, mais si on n'a pas ça, on ne pourra pas bousculer les choses, quoi.
Sophie Delpont.
Oui, François Ruffin, vous disiez qu'il faut établir un rapport de force, il faut aussi tenir ses promesses quand on est élu. Mmh. Vous aviez promis pendant la campagne que vous vous rémunériez à hauteur du SMIC sur votre argent donc des députés. Mmh. Est-ce que c'est le cas?
Oui, c'est le cas, mais bon, moi, j'ai jamais cherché à en faire un objectif de publicité. Donc voilà. Donc j'ai 1 200 euros, je crois, qui me sont versés tous les mois sur mon compte courant.
Et le reste va où?
Le reste va à des associations.
Et vous regrettez aujourd'hui cette promesse?
Je sais que je tape dans ma trésorerie parce que honnêtement, il y a des frais. Je sais que je peux vivre avec le SMIC, mais quand vous êtes en déplacement régulier sur Paris, que vous avez 2 enfants, bon voilà, il y a des frais supplémentaires. Et donc, je pense que j'aurais mieux fait dire le salaire médian. Vous voyez? Non, mais c'est vrai. Je pense que la prochaine fois, s'il y a une prochaine fois, je demanderai un relèvement de mon traitement. Mais c'est pas ma priorité sur le plan économique et social. Vous voyez?
Est-ce que c'est Merci Patron qui finance votre mandat?
Oui, ouais, c'est évident que c'est des économies qui sont.
Donc en fait, vous payez pour travailler.
Voilà. Moi, je paye pour travailler. Mais je m'en fiche. Vous savez, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir le sentiment d'être parfois utile. Et j'ai eu 18 ans, vous avez le journal Fakir qui est là, ça fait 18 ans que je fais ça. Il y a combien de moments où je me suis dit, punaise, je crie dans le désert. Aujourd'hui, mon désert est un peu plus peuplé. Il y a un peu plus de monde qui m'écoute. J'ai l'impression que quand je raconte des choses, on le prend un peu plus en considération. C'est ce qui compte. Moi, aujourd'hui, la grande question pour moi, c'est comment on fait pour passer de la logique dominante travailler plus pour produire plus, pour consommer plus, à consommer moins, répartir mieux. Et ça, pour reprendre...
Vous n'allez pas vous entendre avec les communistes là-dessus?
Je pense que tout le monde... On est dans une... Si on regarde la situation en statique, on va dire on peut pas. Mais on n'est pas en statique, on est en dynamique, y compris sur le plan idéologique. Les choses, elles bougent. Donc, je pense qu'il y a la possibilité de partir, répartir mieux, c'est la base rouge, consommer moins. Mais consommer moins, ça commence par... C'est les riches, ils doivent commencer par consommer moins, hein, que les choses soient claires.
Hein. Sophie Delpont.
François Ruffin, vous avez envoyé une lettre co-signée avec d'autres députés de la commission dont vous faites partie à l'Assemblée nationale. Vous avez demandé à l'entreprise Bigard de publier ses comptes. C'était début octobre. Est-ce que vous avez des nouvelles?
Non, il n'y a pas de nouvelles de l'entreprise Bigard, donc il va y avoir... C'est surtout mon camarade du MoDem, Richard Ramos
oui.
qui se charge du dossier, mais qui va faire appel à je ne sais plus quelle autorité sur la transparence des prix et tout ça pour que les comptes soient publiés. Mais ce n'est pas la seule société. Par exemple, Lactalis, il me semble, ne publie pas davantage ses comptes. Maintenant, comme Lactalis n'a pas eu le même comportement que Bigard, qui a refusé de répondre aux parlementaires, on ne les pointe pas du doigt de la même manière. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai le sentiment qu'on est souvent enfumé avec de la langue de bois à l'Assemblée nationale, quoi. Et nos intervenants, ils savent la manier. On a eu, par exemple, un représentant de l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire qui refusait de mettre en place le label Nutri-Score, mais qui le disait pas, je refuse. Mmh. Il trouvait des beaux mots, responsabilité sociale, environnementale, et puis vous baratine comme ça pendant un bout de temps. Je veux dire, mon problème, c'est si ce qu'on reproche à Bigard, c'est juste de ne pas avoir adopté la lampe de bois, pas avoir les éléments de langage. Donc voilà, il faut lui faire une formation et puis l'an prochain, il passera à l'Assemblée nationale et tout ira bien.
On n'est pas dans le parrain, quoi.
Voilà, c'est ce que
vous aviez dit.
C'était ma réplique.
François Ruffin, il y a également un autre débat qui agite la gauche, un débat qui a opposé notamment Mediapart et Charlie Hebdo. On a parlé de deux gauches, on a dit qu'il y avait une gauche laïque et une gauche qui était beaucoup plus accommodante avec la religion, avec l'islam. On a pointé du doigt une députée de la France insoumise, Danielle Obono. Comment vous vous situez, vous, dans ce débat ?
Moi, je suis pour liberté, égalité, fraternité, laïcité. Enfin, en tout cas, au sein de la France Insoumise, j'ai pas le sentiment qu'il y ait vraiment de difficultés sur ce plan-là. Moi, ce que je crains, je vous dis, ce que je crains, c'est que chaque fois qu'on voit un cas, c'est comme si on nourrissait de l'opposition en miroir, quoi. Valls, Boutelja, voilà. Il faut remettre de l'huile sur le feu, et du coup, ça fait exister des gens qui n'auraient pas existé forcément.
Manuel Valls, il était premier ministre.
Oui, mais d'accord, mais Boutelja, il avait disparu du paysage politique. Il cherche.
Il est député.
Il est député, mais je veux dire, son influence, sa voix, elle était plus entendue. Il trouve un truc pour se refaire, quoi. Et moi, je prends un truc. Je vais vous dire qu'est-ce que c'est la France que je veux. Samedi dernier, donc je monte à la convention à Clermont et je me retrouve gare de Lyon. Et il y a un black qui s'approche du baby-foot dans la gare. Vous savez, il y a des baby-foot. Bon, je lui demande, mais tu veux jouer? Et on démarre une partie. Et puis il y a un agent de sécurité qui était rebeu, qui vient avec son brassard et qui demande à faire un selfie avec moi. Ça m'arrive de temps en temps. Je dis, ok, pas de problème, mais tu veux jouer? Et le gars se met à jouer. Et ensuite, il y a un breton qui s'appelle Yann qui arrive et on joue au baby-foot. Et ensuite, bah voilà. Je veux dire, alors ça fait un peu United Color of Benetton. Moi, ce que je veux, c'est ça. Et ce que je veux, moi, dans ma circonscription, c'est que ça aille entre Fixecourt et Amiens-Nord et qu'on ne cherche pas tous les sujets de tension culturelle et cultuelle pour qu'il y ait un affrontement sur ce terrain-là.
Et si vous étiez tombé avec quelqu'un qui refusait de jouer au baby-foot parce qu'une femme l'avait touché précédemment, qu'est-ce que vous auriez dit ?
Bah, j'aurais été indigné. Mais je veux dire, l'Arabie Saoudite a autorisé pour reprendre cette histoire du chauffeur de bus. Mais est-ce qu'elle est vraie, cette histoire du chauffeur de bus ?
En tout cas, si vous voulez, la question, elle se pose. Alors, on peut la rejeter en disant... Mais
on a l'impression qu'elle se pose moins sur... Normalement,
vous voyez, le syndicat CFDT a pointé des cas, justement, de cet ordre-là.
Mais si vous voulez, moi, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, mais je vois tous les jours des gens qui me disent « on a peur ». Et ce fait social massif, il me semble qu'il n'est pas... on a peur dans le monde du travail, qu'il n'est pas traité dans les médias.
On peut parler des deux. Bon, vous en avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs.
Oui. Bon. Mais là, on a un cas qui est assez hypothétique sur les histoires de chauffeurs de bus. Ok, moi, ce que je veux dire, pour que ma position soit claire, c'est pas au moment où l'Arabie Saoudite autorise les femmes à conduire que si qu'on va commencer à avoir ce type de truc en France, quoi. Ça me paraît complètement évidemment délirant.
Sophie Delpont.
François Ruffin, donc vous portez une proposition de loi sur l'hôpital psychiatrique. La santé publique a été beaucoup évoquée ces derniers jours par la ministre de la Santé, qui met en avant une étude donc qui est aussi citée par la Fédération hospitalière de France, qui déclare donc que 30% des dépenses de l'assurance maladie ne sont pas pertinentes, selon la conclusion de cette étude, parce que notamment 30% des actes médicaux pratiqués à l'hôpital seraient inutiles. Qu'est-ce que c'est selon vous ? C'est un plan de communication ?
C'est une réalité ? C'est un argument tiré du chapeau pour dire quoi ? Qu'on va réduire d'un tiers les effectifs à l'hôpital. Enfin, en tout cas, je refuse que ça soit juste quelques lignes d'une étude sortie comme ça qui guide la politique publique pour l'année prochaine. Moi, cet après-midi, va être voté par exemple l'histoire des vaccins. Vous savez, moi, je vais me situer sur le plan purement démocratique. Mmh. Mais que le passage de 3 à 11 vaccins, donc du coup pour des millions d'enfants à travers le pays, se fasse avec un non-débat dans la sphère publique, hein, puisqu'il n'y a pas eu de débat avec les Français, mais qu'il y ait un non-débat aussi à l'Assemblée nationale et que ça soit juste une ligne budgétaire et que le problème soit réglé en une demi-heure, sur le plan démocratique, ça me choque. Et en l'occurrence, on a demandé à Mme Buzyn de nous amener des données, de nous fournir de rapports, de nous fournir des statistiques. Mmh. Juste, moi, je suis pas du tout anti-vaccin, loin de là.
Mais justement, parce que la question, c'est de savoir un débat de qui. Parce que déjà, il y a un débat entre les scientifiques. Est-ce que ce débat...
Bah oui, mais moi, je veux dire, on demande à la représentation nationale. Le problème de départ, c'est que les Français n'ont pas confiance dans les vaccins. C'était le problème soulevé par une étude qui montrait que 40% des Français répondaient que les vaccins n'étaient pas sûrs.
Notamment par rapport à la crise de la grippe H1N1,
voilà,
qui a fait beaucoup de mal, on va dire, dans l'imaginaire, sur l'idée qu'on impose des vaccins qui ne sont pas forcément utiles à ce moment-là.
C'était le record sur aussi les 67 pays. Mmh. Les Français n'ont pas confiance. Derrière, on confie à une autorité une consultation le gars, le président de l'autorité qui s'appelle Thomas Dietrich, essaye de faire un travail transparent sur cette question, il est sanctionné par le ministère de la Santé, il décide de démissionner. Donc on met en place un comité Théodule qui est composé de 6 membres qui ont des intérêts liés à l'industrie pharmaceutique et qui conclut qu'il faut aller à l'extension de 3 à 11 vaccins. On balance ça aux Français comme ça, sans débat. Vous croyez que c'est la manière dont on va renouer la confiance des Français avec les vaccins? Et aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, où il y a leurs représentants, on ne nous fournit pas un rapport, on ne nous fournit pas une étude, c'est une ligne budgétaire et c'est tout. Comment on peut se positionner, moi, en tant que parlementaire et en tant que père, comment je peux me positionner sur mon acceptation ou pas de passer de 3 à 11 vaccins? Je le dis, j'y suis pas opposé. Et peut-être qu'il y a des maladies à l'intérieur où il faut vraiment vacciner. Et puis peut-être qu'il y en a d'autres, on n'est pas obligé de passer de 3 à 11. Peut-être qu'on pourrait passer de 3 à 6, de 3 à 7, et ainsi de suite. Et quand on connaît en plus les liens de l'industrie pharmaceutique avec le monde politique... on ne peut pas dire que ce soit des décisions qui soient prises avec une transparence et une...
Mais c'est, vous trouvez que ces débats, ils sont escamotés à dessein, François Ruffin ?
Oui, alors oui, là en l'occurrence, le débat, il est escamoté à dessein sur les vaccins.
Mais c'est contre-productif, puisque l'opinion publique rejette cette mesure. Donc c'est un raté de communication du gouvernement ?
Dans la durée, ça me paraît complètement contre-productif. Alors sur le court terme, peut-être que ça va avoir l'impression que ça marche. Mais c'est, alors je vais faire un lien que vous allez juger, mais c'est comme les compteurs Linky.
Compteurs EDF qui sont censés être des compteurs intelligents et sur lesquels il y a débat notamment en matière de protection de la vie privée.
Alors moi je cherche pas encore une fois je me positionne d'un strict point de vue démocratique. Mais ça passe pas aujourd'hui comme une lettre à la poste. Ben il faut ouvrir le débat.
Et pourquoi justement ça ne passe pas comme une lettre à la poste? Parce qu'il y a le risque d'être fliqué.
Ouais,
c'est la peur
Il y a une méfiance dans la société. Parce qu'il y a une méfiance dans la société qui monte à l'égard des élites, à l'égard de tout ça, et dont les votes du printemps aussi en sont aussi un reflet. Donc il y a ça comme truc de base, et ensuite moi sur le compteur Linky j'en sais rien, sur les vaccins aujourd'hui j'en sais rien, mais j'ai envie d'avoir des éléments pour savoir.
Mais alors justement, et cette attitude de scepticisme à l'égard des élites, elle est qualifiée de populisme. Vous, de manière assez inattendue, vous revendiquez le qualificatif de populiste de gauche, c'est ça, François Ruffin ?
Mais ça fait des années, vous savez, ça fait depuis le début des années 2000 et ça s'est amplifié quand Serge Joly, dans Libération, le 30 mai 2005, donc au lendemain du jour où 55% des Français a voté contre le traité constitutionnel européen, a parlé d'une épidémie de populisme. J'ai l'impression que j'étais déjà contaminé puisque je faisais partie des 55%. J'avais noté que c'était utilisé comme une injure par les médias et par les dirigeants politiques. Or, moi, dans mon souvenir, j'y avais des grands auteurs que j'aime beaucoup, Yves Gibeau, Maurice Carême, qu'on apprend à l'école, Eugène Dabi, l'auteur de Hôtel du Nord, Louis Guillou, le sang noir, et qui avaient reçu le prix du roman populiste. Ça veut dire que pour eux, c'était une fierté. Et quand on ouvrait le dictionnaire... La seule définition qu'on avait dans le Petit Robert, c'était courant littéraire s'appliquant à décrire avec réalisme la vie des gens du peuple. Mais décrire avec réalisme la vie des gens du peuple, ça doit être l'une de nos fonctions, l'une de nos fiertés en tant que journaliste, et non pas un qualificatif, un épithète qu'on utilise comme une espèce de dénonciation. Alors après, là-dessus, j'ai nourri ma théorie avec du Chantal Mouffe, avec des choses comme ça. Mais en effet,
philosophe Chantal Mouffe.
Pour moi, populiste ne doit pas être un épithète qu'on utilise comme si c'était la plus grande des injures.
Non, mais aussi bien dans Fakir que dans le monde diplomatique où vous écriviez, il y a quand même eu une volonté de montrer que les choses sont compliquées. Et lorsque l'on qualifie quelqu'un de populiste, c'est bien souvent parce qu'il s'intitule à outrance. Je ne pense pas que Donald Trump, qualifié de populiste, vous paraisse sympathique, François Ruffin.
Mais sur le plan théorique, pour populiste, ce qui m'intéresse, c'est l'idée du « nous contre eux ». Et au fond, c'est quelque chose que j'utilisais déjà avant d'avoir ce mot-là. Ça me rappelle Patrick. J'ai fait un bouquin qui s'appelle La guerre des classes. Et j'avais interrogé un politiste qui s'appelle Patrick Lehagne et qui me disait, dans les années 70, pour les gens, c'était simple. Il y avait les petits contre les gros, les patrons contre les salariés, les capitalistes contre les ouvriers, et ainsi de suite. Et puis, dans les années 80, on leur a dit, non, les choses sont plus complexes que ça. C'est archaïque. Vous devez renouveler votre pensée. Bon, voilà. Et donc, les gens, ils me disent, se sont pas mis à penser. On continue à penser de manière binaire, simplement à sa place. place, que ce soit les petits contre les gros, c'est devenir les jeunes contre les vieux, les handicapés contre les importants et surtout les Français contre les immigrés. Et donc moi, quand j'entends ce que mon projet politique, c'est de rétablir un nous contre eux qui est clair, c'est le nous des salariés, des ouvriers, des gens, quoi, contre le eux des actionnaires, par exemple.
Une dernière question, il y a des salariés actionnaires.
Oui, mais enfin, ils sont généralement pas dominants dans les conseils d'administration. Hein. Ils ont assez peu voix au chapitre sur ce terrain-là.
Une dernière question, Sophie Delpont.
Que pensez-vous, François Ruffin, du projet qui entoure aujourd'hui l'audiovisuel public, le rapprochement Radio France, France Télé?
Alors, moi, je me suis positionné très fortement sur ce qui se passe à France Télévisions. Je l'avais déjà dit, même avant que ça ne se produise, sur la censure politique déguisée en rigueur budgétaire. C'est-à-dire que on a des magazines qui peuvent sortir des informations gênantes, et ben on va leur refuser, donc envoyé spécial, complément d'enquête, cache investigation, on va leur prendre des moyens d'exister, et de sortir des trucs sur la com de Macron, mais aussi sur la dépakine, sur plein de dossiers dont vient de parler dans l'heure précédente, en fait, hein, sur le burn-out, sur Lidl, sur tout ça, on va les priver de ces moyens-là, ils auront plus les moyens de produire une information juste, et du coup, ben, y aura même plus besoin de les censurer après, puisque l'information n'existera pas.
François Ruffin, enfin, vous restez avec nous. On a un fakir à droite et un député à l'hôpital psychiatrique à gauche. C'est donc cet ouvrage qui évoque notamment votre proposition de loi pour l'hôpital psychiatrique.